Bonsoir à tout le monde. On va parler ce soir et échanger avec Olivier Chadouin et Gilles Ragot d'un ouvrage qui est sorti cet été, c'est ça ? Qui sort maintenant,
au printemps.
Sur la cité Refuge à Paris dans le 13e arrondissement, qui a été construit par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Et je pense que une des vertus de l'ouvrage, c'est de ne pas attribuer ce bâtiment uniquement à Le Corbusier, mais de aussi montrer tout l'apport de Pierre Jeanneret quand il s'est agi de mettre les mains dans le cambouis et dans le chantier notamment. Donc, d'un point de vue formel, pour ceux qui ont regardé l'ouvrage, c'est un très bel ouvrage, très bien illustré, et autant sur la qualité des illustrations nouvelles que sur toutes les illustrations historiques. Un ouvrage vraiment extrêmement riche, qui a aussi la particularité d'avoir été écrit à deux voix ou à deux mains par un sociologue Olivier Chadouin, et par un historien d'architecture sous l'angle beaucoup plus architectural. Alors, sauf si vraiment ma langue fourche, ce que je prendrais comme parti, c'est de ne pas parler de ce bâtiment comme d'une œuvre, mais comme simplement d'un bâtiment. Parce que je pense que c'est ce que révèle cet ouvrage, c'est qu'on est sur un bâtiment qui est le résultat, en fait, à la fois d'un programme, ce qu'on appelle un programme en architecture, et donc qui traduit les besoins d'un commanditaire, et qu'on appelle en général un maître d'ouvrage, qui est remis, qui prend son importance vraiment dans l'ouvrage, et puis la réponse formelle qui est produite par l'architecte. Et une des originalités de l'ouvrage, je trouve, c'est vraiment de bien redécortiquer le processus du projet, comment on part de l'intention du maître d'ouvrage pour traduire ça dans une commande, comment de passer à un architecte qui donne un résultat qui est un bâtiment. Et l'ouvrage, finalement, a deux grandes parties, la partie de la construction, de la conception, et puis la partie de la restauration. Et finalement, du changement de programme, d'une certaine manière, et les impacts que ça a en matière de réponse formelle et donc d'architecture, la dimension patrimoniale étant arrivée au milieu, finalement, comme une troisième composante. Donc, ce qui ressort vraiment de l'ouvrage, à mon avis, c'est vraiment cette dimension qui est tout à fait particulière. Ce qu'on voit aussi, ce qui est vraiment relevé, c'est la manière dont ce bâtiment, finalement, est une sorte de manifeste dans la réponse qui est donnée à un programme nouveau qui est d'assurer, finalement, de fournir une réponse à l'accueil des sans-abri qui sont de plus en plus nombreux entre 1920 et 1930, et qui sont notamment une des conséquences de l'industrialisation de la société. Ce bâtiment est un manifeste, d'une part par ce programme nouveau. On sait qu'au XIXe siècle, par exemple, l'architecture a produit beaucoup de bâtiments de formes nouvelles pour répondre à de nouveaux programmes après la Révolution. Là, on est face à un bâtiment de cette nature-là, mais qui est aussi un manifeste dans le sens où Le Corbusier et Pierre Jeanneret s'en servent pour illustrer finalement leur conception d'un urbanisme nouveau adapté à la société industrielle. Donc on est bien dans cette dimension aussi innovation-expérimentation. Ce qui est innovant aussi, c'est le processus de projet. Et le processus de projet, il est, à mon sens, innovant dans les années 20, mais il est aussi innovant lors de la restauration. Ce qui est finalement assez peu courant, c'est d'arriver finalement à conjuguer un programme et une utilisation sociale et un bâtiment qui est identifié comme étant patrimonial. En général, on a un petit peu l'habitude de travailler sur ce type de sujet où soit on met en évidence la dimension patrimoniale au détriment de l'usage, soit on met en évidence l'usage, on fait primer l'usage au détriment de la dimension patrimoniale. Et là, finalement, on a bien une construction du projet de restauration qui permet de répondre aux deux besoins. Donc ça, c'est, je pense, vraiment tout l'intérêt de cet ouvrage. C'est extrêmement facile à lire. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. C'est très facile à lire et c'est vraiment, on est embarqué dans cette aventure sans s'en rendre compte, mais avec beaucoup de plaisir. Donc, je pense que c'est intéressant, peut-être après une petite présentation rapide de qui sont Olivier et Gilles, et je vais les laisser se présenter, de les interroger sur pourquoi finalement cette double approche qui n'est pas très courante quand on travaille sur de l'architecture et notamment sur du patrimoine. Donc, je vous laisse ou l'un ou l'autre. Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous eu cette double approche ?
Oui, je vais commencer. Donc, oui, très rapidement, moi je suis sociologue. Je travaille essentiellement sur les questions urbaines et architecturales. Pourquoi la double approche ? Je vais y répondre déjà en commençant comment je me suis positionné par rapport à cette affaire-là. C'est vrai que pour un sociologue, ce n'est pas évident. Il y a une collègue qui me le disait cet après-midi, qui me disait « Mais finalement, qu'est-ce que tu fais dans un bouquin comme ça ? Tu as fait des entretiens, tu as fait... » Bon, les sociologues ne travaillent pas que comme ça. Ce qui compte lorsqu'on est sociologue, généralement, c'est de contextualiser les choses, c'est-à-dire de ressaisir les actions des acteurs, des individus, dans un contexte. Et là, l'intérêt, c'était évidemment de comprendre comment un bâtiment commandé par l'armée du salut, avec une vision du travail social à l'époque, pouvait trouver une réponse architecturale. Et considérer donc au fond que la réponse architecturale et la forme qu'elle prend, c'est-à-dire le processus aussi, pouvait être un matériau socio-historique, c'est-à-dire pouvait être abordé comme une espèce de fossile d'un moment de la vie sociale, pour le dire très, très simplement, une espèce de fossile d'un moment de la vie sociale, le restituer donc dans un contexte, une manière de voir et de comprendre la question de ce qu'on appelle aujourd'hui le sans-abrisme, mais qu'on appelait à l'époque d'ailleurs la question des sans-taudis. Donc on a beaucoup évolué pour passer du sans-taudis au sans-domicile fixe et au sans-abri. Donc voilà, c'était un premier intérêt. Deuxième intérêt, moi j'ai pas mal travaillé sur les architectes, sur l'architecture, c'était de saisir aussi ce que c'est qu'une réponse architecturale en dehors de la notion d'œuvre justement ou d'auteur, de comprendre que c'est aussi une manifestation matérielle d'un moment de la vie sociale. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai essayé de le saisir, notamment dans la relation que Le Corbusier, mais ça on y reviendra peut-être, avec les commanditaires. Voilà. En tout cas, dans la première partie, la deuxième partie est l'occasion d'aborder aussi l'évolution de la relation entre maîtrise d'ouvrage et architecte. Voilà. Voilà ce que je peux te dire, en tout cas pour l'instant, c'est d'éviter un espèce de décollage contextuel. Parce qu'au fond, il y a trois manières de regarder les productions architecturales. Soit on prend le bâtiment et on fait une analyse très formelle, soit on croit en la notion de génie et d'auteur et on fait une espèce d'histoire qui glorifie le génie de l'auteur, ou bien on considère, lorsqu'il s'agit d'architecture, qui plus est, qu'au fond on a là une manifestation de quelque chose qui dépasse ces notions d'auteur, d'œuvre, etc., et qu'on a la manifestation matérielle d'un moment social. Voilà. C'est un peu théorique, tel que je le dis, peut-être. Je pourrais développer si besoin. Sinon, à part ça, je suis très content parce que les sociologues font rarement des beaux livres. Et celui-là, il est très beau. Je peux l'offrir à Noël. C'est Pierre Bourdieu qui disait ça. Il disait les sociologues, on reconnaît la sociologie à quoi ? C'est qu'on n'offre jamais le livre de sociologie à Noël. Parce que la sociologie, c'est une discipline qui fait des histoires. Ce n'est pas une discipline comme l'histoire.
Oui, mais ça,
et là, comme j'ai pu travailler avec un historien, je peux offrir un livre à Noël. Voilà.
Eh bien, les deux, à la fois l'histoire et les images, sont extrêmement réussies. Ça, c'est un très bel ouvrage.
Je ne vais pas être plus long.
Bon, donc moi je suis historien de l'art et donc j'ai toujours travaillé en fait sur l'histoire de l'architecture et beaucoup sur Le Corbusier et notamment là récemment, pendant 13 ans, participé au dossier d'inscription de l'œuvre de Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial et qui a enfin été prononcé en juillet dernier. Et le rapport au patrimoine mondial est intéressant parce que justement quand on a préparé ce dossier, on s'est aperçu que la quasi-totalité des réalisations de Le Corbusier, pour ne pas dire œuvres justement, sont des bâtiments qui sont toujours dans leur usage d'origine. Et que ce soit de l'habitat, des usines, des chapelles, des couvents, un bâtiment pour des sans-abri. Et il y a toujours cette dimension qui reste et qui est importante d'ailleurs dans l'évaluation d'un dossier patrimoine mondial. Il ne s'agit pas de présenter que des objets muséifiés. Ce livre, comment on l'a fait et pourquoi le travailler à deux, je dirais que d'abord, on ne l'a pas choisi. Parce que c'est un livre de commande. Et ça, c'était il y avait deux écueils dans le fait d'accepter de faire ce livre. Le premier, c'était celui-là. C'était un livre de commande et qui ne nous a pas été passé par la maison d'édition, mais qui nous a été passé par la société de logement social, 3F, qui est maître d'ouvrage de l'opération. Donc avec ce risque, au fond, d'arriver et de faire un livre de promotion du travail de 3F. Et heureusement, dès le départ, il n'y a pas eu en fait l'ombre d'un doute. Et 3F nous a laissé en fait entièrement définir l'ouvrage. À aucun moment, ils nous ont dit voilà comment on voudrait et voilà ce qu'il faut que vous écriviez. Et tout au long des 3-4 ans qu'a duré la préparation de ce livre, qui en fait a accompagné aussi tout le chantier de rénovation, on a eu, je dirais, une paix royale de la part de ceux qui finançaient l'ouvrage, pas directement auprès de nous, mais par l'intermédiaire des éditions du patrimoine. Et on a pu faire vraiment l'ouvrage que l'on voulait et organiser notre travail en commun. Pourquoi, moi, ça m'a semblé évident au départ de travailler avec un sociologue, puisque ça aussi, c'était la demande de 3F. Il ne voulait pas uniquement confier un ouvrage à un historien, mais il voulait aussi un sociologue. Et moi, ce qui m'a semblé important, c'est que ce livre, il ne porte pas sur la construction d'un bâtiment achevé en 1933. Ce livre, il porte sur 80 ans de la vie d'un bâtiment, même 83 ans si on prend les trois années à peu près de gestation du bâtiment. Donc on avait à raconter non seulement les conditions dans lesquelles il a été pensé, vous parliez de manifeste, en quoi il est justement très fortement un manifeste, et un manifeste extrêmement important pour Le Corbusier, c'est vraiment un lieu d'expérimentation qui pour lui revêt une importance très grande et qui explique pourquoi, on y reviendra sûrement, sa mauvaise foi, son obstination devant certains échecs de son travail. Donc c'est à la fois ça, mais c'est après suivre la réception de ce bâtiment dans la presse, dans le milieu architectural, et suivre aussi son évolution, puisque c'est un bâtiment qui a subi des transformations importantes, qui a eu sa façade soufflée pendant la guerre par un bombardement, et de toute façon une façade qui n'était plus adaptée. Et après, c'est comment ce bâtiment a été restauré plusieurs fois, et comment la vie à l'intérieur a évolué, puisque, et c'est là où l'apport d'Olivier Chaloin est absolument essentiel, c'est de comprendre comment on accueille des pauvres, des gens, des sans-abri, des clochards, dans un bâtiment comme ça, et comment les normes sociales changent et comment s'y adapter. Donc voilà, on raconte en fait 80 ans d'un édifice, et donc ça me semblait important effectivement qu'il y ait ce double regard. Et puis le deuxième écueil, c'est qu'il existe déjà un livre sur la cité de refuge. Dans les années 70, il y a un excellent historien américain qui s'appelle Brian Brass-Taylor qui a fait une très très bonne monographie sur cet ouvrage. Donc il fallait arriver une monographie à caractère historique essentiellement, où la dimension sociale est présente, bien entendu, la question de l'usage est présente, mais pas autant probablement que nous on l'a fait et qu'on a pu le faire puisqu'on était deux et qu'il y avait un sociologue dans l'écriture aussi du livre. Donc il a fallu dépasser ce qu'a fait Brian Brass-Taylor et ce qu'on a pu apporter, à la fois des précisions sur le plan historique et surtout peut-être une analyse un peu plus, je ne vais pas dire plus poussée, ça serait prétentieux, mais une analyse qu'il n'avait pas faite de l'importance qu'a cette œuvre dans le parcours de Le Corbusier, dans l'histoire de l'architecture moderne. Et puis on a pu rajouter aussi, le livre de Brian Brass-Taylor est paru en 1972 ou 73, donc il restait presque 40 ans d'évolution de ce bâtiment, de transformation et jusqu'au projet de rénovation actuel qui est, depuis la création de ce bâtiment en 1933, le plus gros projet de rénovation complet. Il y a eu beaucoup, il y a eu 3 ou 4 périodes d'intervention dessus, de rénovation, mais à chaque fois des interventions partielles, ponctuelles. C'était du raccommodage plutôt que, aussi bien sur le plan social, sur le plan d'évolution des normes, que sur le plan patrimonial. Donc voilà ce qui était un peu le projet de cet ouvrage.
Je rajoute effectivement sur le... Il se révèle à la fin de l'ouvrage, finalement, que ce qui est patrimonial, on a dit que l'usage n'avait pas changé. Ce qui est patrimonial, autant que le bâtiment, c'est aussi l'histoire de l'action de l'Armée du Salut, qui est retracée dans l'ouvrage, qui se révèle être un patrimoine de l'histoire du travail social. Ce dont, d'ailleurs, l'Armée du Salut s'est saisie à l'issue de la livraison de ce bâtiment.
Bah, c'était un peu là-dessus que j'aurais aimé rebondir. C'est qu'on sent bien dans l'ouvrage qu'il y a une évolution de la notion du sans-abri. Qu'est-ce que c'est qu'un sans-abri et de la manière dont on peut lui offrir les moyens de se réinsérer dans la société. Et on sent très bien qu'effectivement, autant l'architecte que l'Armée du Salut ont tous deux une vision du bien, en fait, de ce qui est bien pour les autres. Ils font un peu le bonheur des gens à leur place. Hein. Et donc, je pense que c'est intéressant que vous expliquiez l'un et l'autre, finalement, qu'est-ce qui sous-tend en termes de vision, en fait, de projet social, finalement. Hein. Autant la pensée de Le Corbusier et de Jeanneret et celle de l'Armée du Salut.
Oui, ça, c'est une question très importante pour comprendre le contexte de cette commande-là. Non, en travaillant dans les archives, on a fait l'hypothèse, enfin, c'est une hypothèse assez classique, mais qu'au fond, on a fait l'hypothèse et on l'a vérifié, qu'entre le langage de l'Armée du Salut sur le reclassement, soupe, salon, savon, salut, comment reclasser, réparer la machine humaine, on avait tout ce langage-là, hein, le bâtiment est surnommé l'usine du bien, hein, c'est l'usine à guérir, même l'usine du bien, l'usine à guérir. Il y a toute cette idée de remettre dans les rouages, etc. Et on trouve ce langage, d'une certaine façon, transfiguré dans la manière de parler de l'architecture de Le Corbusier. D'une certaine façon, l'éthos puritain, qui est celui de l'Armée du Salut, se retrouve comme en homologie, en reflet, dans le purisme de Le Corbusier. C'est-à-dire, entre le puritanisme et le purisme, voilà, il y a des points de passage, et il y a une forme d'homologie qui est assez frappante. Et ils sont finalement dans une conception qui est la conception dominante contemporaine, qui est qu'au fond, il faut... réparer la machine humaine, reclasser les malheureux et les remettre en ordre dans la machine. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où le nécessiteux, les gens de rien, comme c'est les termes qui sont utilisés, hein, c'est sans taudis, au fond, ils sont des grains de sable dans la machine industrielle. Un peu à l'image de, bah, quand on regarde les temps modernes de Chaplin, il est celui qui, à chaque fois, met un grain de sable dans les rouages. Ça marche plus, voilà. Et donc, il s'agit de le réadapter pour qu'il se redresse et qu'il entre en ordre dans la machine industrielle. Et Le Corbusier dit la même chose pour la ville. Il dit finalement, il faut passer à la seconde révolution industrielle, il faut remettre la ville en ordre, il faut reclasser les choses. Donc on a une homologie assez, assez frappante entre ces deux aspects. Et on sait par ailleurs que, oui, Le Corbusier a eu une éducation protestante. On trouve dans l'analyse de sa bibliothèque des commentaires sur les protestants, qu'il prend D'ailleurs, Le Corbusier, c'est le surnom d'un de ses lointains ancêtres cathares. Donc voilà, on a un tas d'homologies comme ça qui sont relativement importantes pour comprendre le contexte de cette commande et comment il pense. Alors ça nous amène à un autre constat aussi d'ailleurs, c'est qu'au fond, on voit toujours Le Corbusier comme celui qui veut rationaliser la tyrannie de la ligne droite, etc. Et quand on y regarde de plus près, finalement, son rationalisme ne s'oppose pas à l'idéalisme. Il a une idée du bien. Il a une idée de ce que doit être la bonne société. Donc on fait souvent une fausse opposition. C'est ce qui conduit à dire que voilà, Le Corbusier était une espèce de fasciste, etc. Mais au fond, non, il a une pensée idéaliste qu'il applique par le moyen du rationalisme. Voilà. Et qui se retrouve ici assez bien dans le langage que tient aussi l'Armée du Salut.
Et ce discours salvateur que porte l'armée du salut, il correspond complètement, effectivement, au discours même de Le Corbusier sur l'architecture et sur la profonde utopie qui est celle du mouvement moderne, et qui est parfaitement résumée dans un des slogans les plus fameux de Le Corbusier, qui est « architecture ou révolution ». Et Le Corbusier répond « autant faire la révolution architecturale ». Donc Le Corbusier n'appelle pas, il est très conservateur en réalité sur le plan politique, comme l'armée du salut, je le pense aussi, mais il n'appelle pas du tout au grand soir, il n'appelle pas à une mutation des rouages de la société, il appelle à une transformation au fond du cadre dans lequel on vit, et que la transformation de ce cadre suffira pour faire que les gens iront mieux et se sentiront mieux. Donc c'est vraiment une utopie fantastique, enfin un rôle fantastique accordé à l'architecture et à l'urbanisme, de croire qu'il suffit d'apporter une bonne architecture et un bon urbanisme pour que les gens se sentent mieux et que les maux de la société soient effacés. Et c'est tout l'enjeu de la cité de refuge. Et quand il rencontre les gens de l'armée du salut et leur mécène, la princesse Vinaretta Polignac Saint-Ger, héritière, enfin, qui est la fille de M. Saint-Ger qui a inventé la machine à coudre et qui en a vendu autant, donc elle est milliardaire, il voit là l'opportunité de faire la démonstration de ses idées. C'est-à-dire que cette architecture, cette usine à guérir, voilà, elle peut à elle seule porter un projet salvateur, réformateur, quasi messianique. Et il faut bien voir, et je pense que le livre le montre, que ce projet, donc commencé vers 1928 et construit en 1933, achevé en 1933, est contemporain des recherches de Le Corbusier et de l'écriture de Le Corbusier de son livre « La ville radieuse ». Hein, le titre « La ville radieuse »,« La cité radieuse »,« La ferme radieuse »,« Le village radieux ». Donc tout ça, le petit monde radieux de Le Corbusier qui vise à faire des propositions pour que l'architecture, l'urbanisme apporte le bonheur. Et la cité de refuge, c'est le premier morceau de la ville radieuse. Et c'est la démonstration qui doit faire preuve de la capacité de cette architecture moderne à transformer la société. Et comme ça ne va pas bien toujours marcher, enfin, il y a des aspects qui ne marchent pas bien, il va se raidire complètement sur ses positions.
Et pour juste rebondir, effectivement, enfin, cette conception, elle a une racine, quoi. C'est remettre en ordre les choses terrestres pour le salut. Ça, c'est la doctrine de l'armée du salut. Si tu gères bien tes affaires terrestres, tu auras le salut. Et Le Corbusier, lui, ses affaires terrestres, elles passent par le bâti, par la construction, etc. Et sur le fait que ce soit... Effectivement, c'est un de ses premiers gros bâtiments qui va préfigurer cité radieuse. Il en fait d'ailleurs pas mal la publicité à l'époque. Hein. Il dit, voilà, c'est une contribution à mon expérimentation. Et... non seulement il voit comme une contribution à son expérimentation, mais il faut bien voir que à cette époque-là, c'est ce que raconte Anatole Kopp dans un autre livre qui s'appelle « Quand le modernisme était une cause », montre bien que jusqu'à présent, les gens du mouvement moderne ont eu très peu de grosses commandes. Ils ont eu des commandes qui sont essentiellement celles de mécènes pour de belles maisons, etc. Et donc là, c'est les premières fois qu'il a l'occasion véritablement de faire quelque chose à cette échelle-là et de participer en plus à un projet social.
Mais on le sent finalement aussi dans la réponse formelle dans la réponse formelle qui est donnée. Notamment, ce qui est assez marquant, c'est de voir à quel point le bâtiment s'affirme dans un environnement qui est assez peu structuré. À l'époque, la seule vraie grande structure du territoire, c'est les voies ferrées qui sont à côté. Autrement, on est sur un peu un environnement qui s'est aménagé spontanément et pas tellement, en fait. Et ce bâtiment vient finalement comme un vrai paquebot, comme un phare, comme un repère dans ce paysage désorganisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on ne cache pas sa vocation, on l'affirme aussi comme étant un manifeste de l'architecture moderne. Et par la couleur aussi, on n'en fait pas quelque chose de honteux, on en fait quelque chose finalement d'assez attrayant. Et ce qui est assez intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, finalement, ce bâtiment qu'on a restauré pour lui redonner finalement une certaine forme d'éclat extérieur, il a été complètement enveloppé dans une ville recomposée, pour le coup extrêmement composée, puisqu'on est sur des procédures d'aménagement type ZAC et autres, où rien n'est laissé à la spontanéité et à l'histoire, et où finalement il se retrouve comme un manifeste architectural au milieu de tout un tas d'autres bâtiments qui sont presque des manifestes architecturaux, une collection de manifestes architecturaux. Et je trouve que ça interroge vraiment un peu la question de la monumentalité aujourd'hui, quoi. Mais ça, c'est un point de vue extrêmement personnel. Alors, je pense qu'on ne sait plus très bien faire des monuments, mais en leur donnant du sens, en fait.
Mais vous avez raison, c'est pas... Il n'y a aucun misérabilisme dans la façon d'aborder les choses par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Dans ce projet, il veut mettre absolument tous les acquis qui sont ceux de ces 10-15 années de recherche précédentes, et comme le disait Olivier, qui se sont essentiellement exprimés dans des villas, et parfois même des villas de luxe. Et donc ce luxe, enfin ce qu'il considère lui comme étant le luxe de l'architecture, c'est-à-dire essentiellement l'air et la lumière, Le Corbusier définissait quand même les trois valeurs essentielles de la joie de vivre comme étant l'air, la lumière et la vue. Voilà, hein, c'était ça. Et ça, il voulait le donner aussi bien à M. Savoie, pour qui il construit une maison luxueuse, qu'un clochard qui entre la cité de refuge. Donc, il va mettre énormément d'ambition. Je ne sais pas si l'Armée du Salut, au fond, attendait un bâtiment aussi éclatant, aussi transparent, aussi lumineux, avec devant la façade de verre, donc qui incarne la pureté, qui incarne la propreté, qui incarne le chemin un peu de la rédemption, comme ça. Il met un pavillon d'accueil qui a essentiellement une fonction... j'irais comme un amer d'un repère, qui est un bâtiment, qui est un simple toit au fond, mais qui est entièrement couvert de carreaux de verre émaillé, jaune, rouge, bleu, complètement clinquant au soleil, et la rénovation redonne cet éclat. Et on est fasciné parce que, au lieu de se cacher, comme aujourd'hui on essaye de cacher les centres pour les sans-abri ou pour les réfugiés, on l'affiche clairement. C'est-à-dire, et on faut se mettre dans la place d'un clochard qui arrive. Voilà, il rentre pas dans un bâtiment noir, fermé, il rentre dans un bâtiment lumineux qui incarne l'hypermodernité. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas ce qui pourrait incarner autant cette hypermodernité appliquée à un bâtiment pour des sans-abri. C'est assez difficile à imaginer. Je ne sais pas à quel architecte il faudrait faire appel pour avoir autant d'ambition. Donc il y a une ambition dans la pureté, dans la propreté, dans l'air conditionné, dans les équipements intérieurs, dans les sanitaires, dans l'espace aussi qui est offert à ces gens. Dans la polychromie intérieure aussi. À l'époque, en dehors du pavillon, il n'y a pas de polychromie extérieure. Tout ça, c'est... Il a exactement les mêmes intentions pour ces villas de luxe. Il ne fait pas de différence. Et c'est là aussi où il retombe dans cette forme d'utopie. Il a dans Vers une architecture, une légende sous un projet de maison ouvrière. Et il dit, en gros, c'est là que toute l'architecture moderne trouve sa pertinence et sa légitimité, dans le lien commun qui unit la maison du pauvre et la maison du riche. Voilà. Donc pour lui, voilà, il suffit de donner ça aux pauvres. Et on fait une action qui est cohérente avec les idées du mouvement moderne.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit les prémices de la manière de fabriquer de l'architecture et dont on a hérité, à la fois dans l'usage des matériaux, dans les formes, où on s'abstrait complètement de références culturelles, et avec une véritable, comme d'ailleurs ces ouvrages ont une dimension et une portée internationale, où on sent bien qu'on est sur les prémices d'une architecture internationale qui efface complètement la dimension culturelle de l'architecture. Et c'est pas tellement étonnant, je trouve, quand on voit qu'il gomme dans les éléments de programme tout ce qui peut être imaginaire, et comme tout ce qui peut permettre à l'individu de se sentir bien, c'est aussi toute la dimension de l'imaginaire, de la sensation. Et on voit bien qu'on est sur des réponses très fonctionnalistes. Il le dit d'ailleurs, il l'affirme, hein, c'est la machine Là, il y avait la machine à habiter, il y a la machine à guérir. On est bien sur quelque chose de, où on efface toute cette dimension-là, et qui est quand même un héritage, je pense. Aujourd'hui, on, c'est presque quand on fait de l'architecture qui se réfère à du culturel où on fait un gros mot, quoi. On ne dit pas un gros mot, on fabrique un bâtiment gros mot. Quand on a des... C'est presque honteux.
C'est là où il a eu beaucoup de difficultés, parce que, comme vous le dites, effectivement, il est à la recherche d'un langage universel qui est celui du purisme. Les solutions qu'il propose à la cité de refuge pourraient être appliquées à Chicago, en Chine ou ailleurs. Pour lui, c'est exactement le problème, la même chose. Mais en revanche, on le voit, je pense, dans le livre, et Brian Brasteller le montrait aussi déjà dans son ouvrage, qu'il se heurte aussi à un contexte, qui est le contexte de la réglementation parisienne, qui est le contexte d'une parcelle assez difficile à appréhender, donc avec au moins 5 projets différents pour essayer d'en trouver le meilleur parti, avec constamment le souci d'être dans une approche dérogatoire, essayer de dépasser la règle et qui va lui avoir beaucoup de problèmes avec la ville de Paris, beaucoup de difficultés à imposer son projet. Voilà, donc et c'est là où on sent qu'il y a chez lui une tension énorme, c'est que son projet a une visée effectivement internationale, universelle, et on l'embête avec des problèmes, des contingences locales, des problèmes de cheminée qu'il faut absolument avoir, alors que lui n'en a plus besoin parce qu'il a mis l'air climatisé et un chauffage central différent. Donc voilà, il y a un hiatus effectivement entre la règle et puis ce que lui il propose.
Et les gabarits, ce qui est assez drôle parce que. Le débat entre l'architecture contemporaine et le vélum, enfin la silhouette traditionnelle parisienne, finalement, on se rend compte que c'est assez ancien et le bâtiment de Le Corbusier vient dépasser ce gabarit autorisé et il se bat comme un diable, effectivement, pour arriver à faire son projet quand même, quitte à l'adapter un petit peu. D'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant dans l'ouvrage de voir à quel point c'est un projet militant, autant pour l'armée du salut qui va se battre pour trouver du financement, parce qu'évidemment, le caractère innovant et expérimental conduit à quelques difficultés de financement et de maîtrise budgétaire. Donc, en cours de projet, ils sont quand même obligés de revoir le budget et de compléter leur financement. Et puis en même temps, projet militant d'un point de vue technique, parce que Le Corbusier va faire des pieds et des mains et activer tout ce qu'il peut activer pour déroger aux normes, pour montrer, et ça je pense que c'est assez intéressant aussi, que le dispositif innovant, un des dispositifs innovants techniquement qu'il met en place, c'est-à-dire la climatisation, peut fonctionner alors que manifestement ça fonctionne pas et il va finalement trouver tout un tas de stratagèmes pour essayer de montrer que bah si ça fonctionne quand même. Donc je sais pas si c'est assez drôle parce que finalement il appelle ça la respiration exacte.
Oui,
c'est
en
ça.
Fait Il avait imaginé quelque chose qu'on fait au fait couramment aujourd'hui, c'est-à-dire il avait imaginé d'avoir une double peau et d'avoir entre cette double peau un système de ventilation et de chauffage qui fait que il aurait eu une régularité, enfin
un air constant.
Voilà, un air constant à l'intérieur et en même temps à l'intérieur avoir un air propre, constamment renouvelé. On est effectivement, Olivier l'a rappelé, juste à côté de la gare. Et donc, il y a les fumées des locomotives. Mmh. Donc, autour, c'est une zone assez insalubre. Et donc, lui, il veut filtrer ça. Et il veut apporter un air propre, un air scientifique, qui c'est, de son point de vue, beaucoup mieux que la possibilité d'ouvrir une fenêtre et de respirer à la fenêtre. Donc, et le problème, c'est que financièrement, il n'aura pas la possibilité de faire cette double peau. Donc, il a une peau unique. Enfin, il a juste un voile de verre et que le système de climatisation ne suffit pas à réfrigérer l'intérieur pendant l'été. Donc on atteint des températures extrêmes, enfin je veux dire 32, 33 degrés dans la crèche où il y a des nourrissons, juste derrière les vitrages. Et aussi les clochards ne peuvent pas supporter. Et l'hiver, le premier hiver, le chauffage fonctionne bien, mais c'est un système d'air pulsé et le bruit de la ventilation empêche de dormir. Donc, et tout ça, bon, c'est aussi qu'il est, il a été justement avec la Cité de Refuge, donc avec l'Armée du Salut, donc une institution qui n'a pas énormément d'argent, qui finance l'opération par le mécénat. Donc il n'a pas eu les moyens complètement d'appliquer. Mais plutôt que de revenir sur son projet et de faire une façade avec des ouvrants traditionnels, il a préféré continuer quand même. Il s'est obstiné donc dans son projet, alors qu'il savait très bien, je pense, que ça ne marcherait pas.
Oui. Mais alors, on va parler du caractère innovant tout à l'heure. Effectivement, tu as cité la crèche. À l'époque, c'est innovant parce que le visage sans-abri commence à changer. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a des veuves et on commence à changer de politique familiale et on s'intéresse aussi aux femmes seules avec enfants, etc. Et donc là, l'Armée du Salut est vraiment précurseur et on retrouve l'idée de la crèche sur le toit de Le Corbusier qui fait ailleurs d'ailleurs. Donc ça, c'est un aspect innovant. Mais il y a vraiment cette volonté dans le bâtiment et ça, c'est caractère symbolique aussi, la manière de penser de l'époque. De purifier aussi la question de l'air, s'il tient tant à cette question de la respiration exacte, à faire entrer la lumière, etc., c'est parce qu'il faut absolument assainir et montrer le contraste entre ce qu'il appelle ce monstre aplati sur Paris, qui est le 13e arrondissement, qui est fait de bidonvilles, de voies de chemin de fer. C'est pas Paris, le 13e arrondissement, en 1930, c'est ailleurs. C'est loin.
C'est un territoire de frange.
Voilà. Donc, il faut avoir ça en tête aussi. Et donc, lui veut véritablement installer ça. Puis les métaphores qu'on a, c'est ça. C'est un phare dans l'océan de la pauvreté. Donc là, le ramène du salut, il trouve son compte aussi parce qu'à cette époque, elle cherche à affermir son implantation en France, à montrer son caractère innovant dans l'action. Donc, ils vont se retrouver là-dessus aussi. Et le bâtiment est une double démonstration. Démonstration sans doute aussi de ce que peut faire l'Armée du Salut, ce qu'on peut faire en termes d'assainissement de plus propre, etc. Et pour Le Corbusier, ce qu'on peut faire de plus moderne, de plus rationnel pour traiter ces questions et surtout s'isoler de ces fumées, de tout cet environnement qui paraît insalubre, mauvais pour la santé, etc. Donc il y tient énormément à cette question de respiration exacte jusqu'à la mauvaise foi parce qu'il va envoyer des courriers à toutes les personnes influentes qu'il connaît à peu près, à des savants, jusqu'à demander des expérimentations, jusqu'à écrire à la princesse de Polignac à un moment donné que, au fond, il y a des gens qui sont à la remorque de l'histoire, ils ne comprennent pas que lui, il est à l'avant de l'histoire. Quoi. Je ne sais plus comment il l'explique, mais c'est à peu près ça. Ce à quoi elle lui répond de manière un peu moqueuse. Bon, oui, c'est vrai, sans doute, vous êtes devant, mais quand même, il y a un problème à régler. Enfin, bon, il va falloir trouver. Donc, on est vraiment dans cette, dans cette bataille-là. C'est pour ça que le chapitre s'appelle « La bataille de la respiration exacte », c'est ça. Il dit, tiens, c'est un point clé, ce renouvellement de l'air. Quoi.
Au point que finalement, toute l'énergie qu'il va mettre pour justifier un dispositif qui ne fonctionne pas va jeter l'opprobre sur l'intégralité du bâtiment qui va être considéré comme dysfonctionnel, en fait, dans son ensemble, alors que c'est essentiellement ce point-là qui dysfonctionne. Tout le reste est quand même un bâtiment intéressant. Et ce que montre, je trouve, très bien l'ouvrage, c'est que le changement les changements qui ont eu lieu dans la prise en charge de la pauvreté, de l'insertion, c'est-à-dire de passer du tri, on va faire le... Il y a un truc effrayant dans la composition... Effrayant aujourd'hui, hein, dans la description du projet initial, on parle de centre de tri.
Oui. À l'entrée.
À l'entrée, il y a un centre de tri. C'est un peu difficile aujourd'hui dans un CHR, enfin dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, de parler de centre de tri. Là,
on le dit plus.
Voilà, ça fait mauvais genre, voilà. Et c'est lié notamment, finalement, au changement de conception de la réinsertion, où on voit bien qu'on prend à la fois beaucoup plus en compte l'individu et son parcours, et puis aussi plus forcément l'individu seul, mais l'individu et sa famille. Et je pense que c'est intéressant d'essayer de vous entendre sur finalement les conséquences que ça a eu sur le projet de, à la fois d'évolution du bâtiment, avec la création du bâtiment de Candilis, et puis en même temps sur la transformation du bâtiment qui a eu lieu lors de la restauration.
C'est plutôt une question pour toi.
Oui. Enfin, à la fin, en termes de programme, de gouvernance,
oui,
de
puis projet. Je répondrai sur le projet de rénovation récent.
Oui, ouais. à partir de la fin des années 60, c'est 66, c'est ça, le bâtiment de Candilis. Il y a de nouvelles manières, nouveaux paradigmes de l'action sociale qui se développent, et on voit se développer, après avoir vu les assurances sociales, etc., la mise en place des CHRS, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Et la doctrine n'est plus le reclassement, n'est plus, elle devient celle de la réinsertion. Voilà. Donc là, avec l'idée qu'il faut remettre les gens au travail en les accompagnant, mais on commence à avoir point de l'idée que, au fond, s'ils ont un projet, c'est mieux. Pour répondre à ce nouveau besoin, l'idée d'insertion par l'économique aussi, on va construire cette extension qui est le bâtiment de Candilis. Alors, Sagil en parlera mieux que moi. Bon, Candilis essaie de le faire de manière, je sais pas, comme disaient les architectes, dialogique. D'essayer de discuter un peu avec la façade de Le Corbusier. On verra plus tard que... Aujourd'hui, c'est autre chose. Et c'est une extension qui, au fond, est là pour répondre à de nouvelles contraintes de l'accueil. Qui plus est, le public commence à changer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on traitait le public, on le triait. Il y avait eu les familles. Mais progressivement, et ça, on le voit de manière radicale à partir des années 80, on voit apparaître de nouvelles figures de la pauvreté qui vont être non plus... des clochards, non plus des sans-abri ou des SDF, mais qui vont être aussi ceux qu'on appelle, ceux qui ont subi ce qu'on appelle la déstabilisation des stables. Il y a eu des films comme ça, si vous vous souvenez, Une époque formidable, qui montraient très bien comment finalement un employé pouvait se retrouver à la rue le lendemain, etc. Donc c'est la figure du sans-abri change complètement, y compris dans ses contours, dans ce qu'elle est. Et la doctrine de la prise en charge elle-même, ce qui va conduire le bâtiment aussi à de nombreuses évolutions. Enfin, il faudrait beaucoup de temps pour décrire les étapes et les figures des sans-abri.
Il ne faut pas qu'on défleure.
Il y a une périodisation assez précise qui répond évidemment à l'évolution des normes aussi, des assurances sociales et surtout à la trajectoire de professionnalisation de l'action sociale. C'est-à-dire qu'au départ, l'Armée du Salut, on est dans du caritatif. Le bâtiment, il est financé d'ailleurs par un appel au fonds, l'Armée du Salut, elle est encore sur sa doctrine, avec des bienfaiteurs, etc. Et progressivement, l'Armée du Salut va se professionnaliser, elle va être une des premières adhérentes à la Fédération des centres d'hébergement et de réinsertion sociale en France, et elle va suivre une trajectoire de professionnalisation avec un personnel formé qui est plus seulement sur la doctrine soupe, savon, salut. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, où, effectivement, quand on parle de l'Armée du Salut, aujourd'hui, les gens se demandent s'il y a encore la fanfare, l'uniforme, etc. Tout cela est terminé. Vous avez affaire à un centre de réhébergement où, évidemment, il y a encore quelques affiches, quelques éléments qui restituent l'histoire. L'histoire est importante pour eux, je pense. Mais on est dans des centres d'hébergement, de réinsertion sociale.
Il n'y a plus aucun prosélytisme.
Voilà, sans prosélytisme, complètement professionnalisé. Voilà.
Oui, donc c'est... Toute cette évolution combinée aussi au problème de vétusté progressive dû aux faibles moyens qu'a l'Armée du Salut, dû au fait aussi que souvent beaucoup de travaux à l'intérieur de la cité ont été faits par des résidents eux-mêmes. C'est une façon de les faire travailler, etc. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de respect des règles qui sont ceux de l'architecture et dans l'entretien d'un patrimoine. On fait qu'il y a une dizaine d'années, le bâtiment était dans un état assez lamentable. Aussi bien sur le plan de l'accueil des sans-abri, c'était absolument plus aux normes. Il restait même encore, même si beaucoup avaient été partitionnés déjà, mais il restait encore quelques dortoirs collectifs, donc ou bien des chambres où il y avait 6-7 personnes ensemble. Donc ça, c'est plus des conditions d'accueil correctes. Beaucoup de chambres aussi qui avaient été retaillées, qui n'avaient même plus d'accès, je dirais, à la lumière naturelle. Donc il fallait reprendre l'ensemble avec cette grosse difficulté. difficulté qu'entre-temps, dans les années 70, justement, au moment où Brian Brasteller fait son livre, le bâtiment est en partie inscrit et classé sur la liste des monuments historiques. Pas la totalité, certaines parties seulement. La toiture, la façade, le hall d'entrée sont inscrits. Et le pavillon d'accueil également. Donc, comment remettre aux normes un bâtiment comme ça et en même temps respecter et peut-être même remettre dans un état meilleur les parties inscrites ou classées. Donc ça, ça a été tout le dilemme. Et ce qui a été intéressant donc on a pu travailler avec les architectes qui ont fait cette opération en toute indépendance, en toute liberté aussi. Et on a pu voir l'évolution de leur discours. Le premier discours des architectes était, voilà, on a une œuvre de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, mais aussi une œuvre de Candilis, hein, donc qui a été rajoutée, comme l'a indiqué Olivier Chadouin. Candilis, c'est quand même un grand architecte du XXe siècle, c'est un disciple également de Le Corbusier. Donc leur première attitude a été de dire, nous respectons autant Candilis que Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Et puis, face à la réalité, quand on leur a dit, oui, mais il faut remettre aux normes environnementales, etc., ils se sont dit, comment on va faire? Parce que pour remettre la partie de Le Corbusier et Pierre Jeanneret aux normes, il fallait en fait complètement abandonner toute idée de patrimoine. Et donc, la stratégie qu'ils ont mis en œuvre, c'est de charger complètement la partie de Candilis, de la mettre vraiment complètement, elle, aux normes, quitte à la dénaturer complètement, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus l'écriture de Candilis, de façon à ce que, en prenant globalement l'ensemble des deux bâtiments, ils étaient aux normes. Donc, ils respectaient les normes imposées. Et de cette façon, ils ont pu être beaucoup plus légers dans l'intervention sur le bâtiment de Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Et donc, ils ont eu vraiment deux discours. Et aujourd'hui, ils l'assument complètement, alors que la critique architecturale ne l'a pas apprécié. Sans pour autant se dire, mais comment on aurait fait de toute façon. Et donc, il a fallu comme ça concilier les deux pôles, d'autant plus, c'est d'autant plus difficile pour 3F et pour les architectes qu'il n'y a pas eu de subvention pour les parties patrimoniales. C'est-à-dire, la totalité de la rénovation, y compris des zones inscrites ou classées, s'est faite sur les budgets sociaux attribués.
De l'humanisation, ouais. Et pour avoir conduit quelques projets de cette nature, c'est pas beaucoup, quoi. Ouais. Enfin, on a intérêt à gérer l'argent de manière efficace. Ouais, ça, c'est clair.
Sur cette aventure-là, le devenir du bâtiment de Candilis, c'était assez intéressant parce qu'on a pu aussi participer et suivre les travaux du comité. Il y a un comité de suivi historique qui avait été mis en place, auquel participaient la Fondation Le Corbusier, l'architecte des bâtiments de France, etc. Et c'était assez intéressant parce que, au fond, à un moment donné, on a quasiment entendu. Mais en fait, c'est dommage parce que les gens regardent ce bâtiment et ils confondent la façade de Candilis avec Le Corbusier. Et aujourd'hui, si vous regardez le résultat du projet, c'est que non seulement ce pauvre bâtiment de Candilis, il a endossé la recharge symbolique ou la recharge patrimoniale, on pourrait dire, de Le Corbusier, la révélation patrimoniale de Le Corbusier, mais il est complètement invisibilisé sur la façade. C'est-à-dire que la façade polychrome qu'il y avait n'est plus visible. Tout est au bénéfice de la repatrimonialisation, c'est le terme qu'on a utilisé, nous, la révélation du caractère patrimonial de l'Armée du Salut, endossée par... Alors qu'on aurait pu, effectivement, prendre le parti de départ que tu évoquais. Hein. Mais ce sont des discussions qu'ont les savants du patrimoine.
Bah, je pense que ce que ça montre, en tout cas, c'est que le patrimoine, c'est pas une vérité. C'est un choix, c'est un tri, c'est un parti. Et qu'on aurait pu prendre un autre parti en patrimonialisant les deux bâtiments. On aurait dû prendre un autre parti de restauration. Et c'est vraiment, je pense, un choix. Enfin, ça le montre de manière évidente, quoi. Ce que je pense aussi intéressant dans cette dernière partie de l'ouvrage, c'est la manière dont on voit évoluer le rapport, enfin la maîtrise d'ouvrage dans la construction du projet de réhabilitation. Parce que autant on voit bien qu'au démarrage du projet, on a deux personnalités, une qui représente l'Armée du Salut et puis l'architecte et notamment Le Corbusier, qui construisent vraiment le projet, quelquefois dans des rapports un peu tendus d'ailleurs. Et puis, dans la restauration, on n'est plus du tout dans des personnalités face à face. On est dans un groupe de maîtrise d'ouvrage qui sont des professionnels, qui sont des représentants d'institutions et du coup, qui portent le message de l'institution. Et ça, je pense que c'est assez intéressant aussi d'expliquer finalement ce que ça a eu comme influence sur les choix qui ont pu être opérés et dans la régulation notamment.
Je vais répondre sur la première partie. Oui, quand je disais en introduction tout à l'heure que, au fond, s'attaquer en tant que sociologue à ce genre de... C'est aussi s'attaquer à un fossile de la vie sociale. C'est aussi le cas pour l'observation des processus de production de l'architecture. C'est-à-dire que dans les années 30, on a ce que nous, on a appelé la rencontre de deux charismes. On a le commandant Perron qui tient son projet de l'armée du salut avec un certain prosélytisme, une force. Enfin, apparemment, c'est un personnage. Puis on a Le Corbusier qui a son projet lui aussi. Et ils vont produire quelque chose d'assez expérimental dans ce face-à-face qui est un peu ce dont rêveraient tous les architectes aujourd'hui, le colloque singulier qui serait deux génies qui se rencontrent et quelque chose en éclos. Voilà. Et ce que montre l'évolution des commandes jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus du tout dans ce système-là. Aujourd'hui, on n'a plus une collaboration entre deux personnes comme ça qui peuvent expérimenter, sont dans un registre de charisme, etc. Les procédures sont beaucoup plus routinisées. Il y a plus de normes et ce ne sont plus des personnages qui collaborent, mais des personnes. Et beaucoup de personnes. Il y a personne qui représente des intérêts patrimoniaux. Il y a l'utilisateur qui est le directeur de la cité de refuge qui a des enjeux sur son projet social. Il y a 3F qui est la personne qui va restaurer pour un utilisateur. Il y a l'architecte des bâtiments de France. Voilà. On se retrouve avec un système d'acteurs beaucoup plus complexe et des contraintes aussi sur la définition du travail social, la définition de la prise en charge des sans-abri qui a considérablement évolué puisque aujourd'hui, les publics sont très fractionnés. Ils ne sont pas triés, on ne fait plus de tri, mais on a une diversité de publics qui est un vrai problème pour les travailleurs sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre un accueil de nuit, entre un accueil long, entre la réinsertion, entre la question de l'accueil des migrants aussi qui se pose à Paris, avec l'accueil aussi des femmes, qui est une nouvelle problématique auxquelles ont affaire les centres sociaux sur Paris. Voilà, tout ça fait qu'on a un système beaucoup plus complexe et que l'observation d'une commande entre les années 30 et aujourd'hui, c'est aussi montrer cette complexification progressive, même si aujourd'hui, quelques-uns croient encore au génie et au charisme de quelques grands architectes.
Mais je pense que ça marche si la maîtrise d'ouvrage a aussi un vrai charisme et est capable de formuler une véritable intention, au-delà du programme technique. C'est dans la confrontation entre la vision que le commanditaire a du bonheur, en fait, et puis celle de l'architecte, qu'on a quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, souvent, la maîtrise d'ouvrage, elle se bride à ce niveau-là. Elle donne des mètres carrés à produire, tant de places de parking, tant d'habitats, etc. Et elle n'ose pas, finalement, afficher une vraie vision de ce qu'elle attend en matière de qualité ou d'ambiance. Et du coup, c'est l'architecte est bien obligé à un moment donné pour construire son projet, et s'il ne veut pas que ça soit un projet uniquement technique, de la construire, cette vision-là. Et à mon sens, une des difficultés, c'est que ce n'est pas discuté. S'il n'y a pas de tension, c'est l'un qui impose à l'autre. Et des fois, ce n'est pas terrible.
Ce qu'on a bien vu, c'est que 3F et les architectes, d'ailleurs, étaient tout à fait... je dirais sur la même longueur d'onde pour ça. Leur objectif premier, c'était remettre aux normes sociales. Le projet patrimonial, ça venait en second. Mais dans le comité de suivi archéologique et scientifique dont a parlé Olivier Chaloin, où il y avait quand même une bonne vingtaine d'intervenants différents, entre maîtrise d'ouvrage, représentants des entreprises, la mairie de Paris, les architectes des bâtiments de France, la fondation Le Corbusier, etc. On a quand même vu très clairement 3F apporter une grande attention à cette dimension patrimoniale. Je pense qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas se tromper. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec ce bâtiment, qu'il en allait de leur image de marque. Et je pense que s'ils ont voulu qu'il y ait un livre aussi en même temps, c'est qu'ils en font quand même un objet un peu à part dans leur production, qui va être un peu, non pas leur danseuse, mais quand même quelque chose qu'ils vont afficher. Et avec un souci quand même très grand, toujours de tenir les budgets, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, c'est un jeu où, bon, je cède là-dessus, mais du coup, il faut que je récupère de l'argent ailleurs. Et donc, c'est un jeu à équilibre constant, il faut arriver à trouver. Pendant ces 3 ans où ont eu lieu, se sont réunis une bonne vingtaine de fois, donc, ce comité scientifique et archéologique, vraiment, toutes les questions patrimoniales ont été débattues avec la maîtrise d'ouvrage qui était vraiment intéressée et des solutions ont vraiment été trouvées. C'est-à-dire qu'il y a eu des gros problèmes, notamment avec la réglementation pompier, où les pompiers voulaient imposer des portes coupe-feu partout pour recouper le hall, voulaient imposer, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces panneaux qu'on accroche au plafond qui permettent d'empêcher la fumée de passer, et donc qui auraient été en plein dans le hall du bâtiment. Et en cédant sur d'autres choses, l'architecte François Chatillon et la maîtrise d'ouvrage ont réussi à éviter tous ces pièges. Et le résultat est que la remise dans un état... Alors, quel état d'origine? Ça, c'est un problème, parce que le bâtiment a connu tellement de mutations qu'il n'y a pas un état de référence.
Hein,
toujours cette question de l'état de référence, il y en a plusieurs. Donc, la remise, en tout cas en état, par rapport à différents états de référence, est allée au-delà des parties inscrites. C'est-à-dire qu'il y a des zones, comme par exemple la rue, qui est en sous-sol, qui, pour les architectes, est un lieu mythique. Cette rue intérieure qui part de la rue du Chevaleret et qui distribue tous les espaces de service où les camions peuvent passer même. Cette rue n'était pas inscrite. Elle a aujourd'hui retrouvé son état d'origine et qui est complètement différent de ce qu'elle était devenue. Donc, je ne vais pas donner un quitus à l'architecte en chef qui a fait ça, mais... Il y a eu vraiment un travail assez remarquable. Il y a des endroits où je pense qu'ils pouvaient aller un peu plus loin. Je ne sais pas si ça aurait coûté très cher, mais les études historiques qui ont été faites tout au long du processus ont montré qu'il y avait encore des choses à faire. Ce n'est pas moi qui ai fait les études historiques. Il y avait une architecte qui s'appelle Vanessa Fernandez, qui est en même temps historienne, et à qui François Chatillon et la maîtrise d'ouvrage demandaient régulièrement des compléments d'informations sur tel aspect, telle couleur ici, ou comment étaient les poignées de porte, ou comment était ceci ou cela. Et donc, il y a eu des études complémentaires qui ont été faites. Nous, on ne s'est pas mêlés de cela. On était observateurs uniquement. Mais ça a vraiment permis d'aller assez loin dans l'évolution. Le porche d'entrée avec ses carreaux de verre, il a fallu les refaire parce que la société qui les avait faits n'existait plus. Et c'était une pratique qui avait disparu. Donc ça a été refait spécialement. Et sur les budgets de logement social, et même 3F ne voulait pas qu'on communique trop là-dessus parce qu'ils disaient que c'est pas... Normalement, c'est
pas
fait
pour
ça.
C'est
pas fait pour ça. Donc, s'ils sont arrivés, c'est que ils ont réussi à faire des économies ailleurs. Voilà, c'est toujours un jeu comme ça. Et ça, c'était assez intéressant, je trouve, à montrer dans un ouvrage.
La conclusion de l'ouvrage est prometteuse aussi, puisque le bâtiment aujourd'hui s'ouvre à une certaine forme de tourisme, en fait, et que on fait des gens qui sont hébergés là, des acteurs culturels, en leur proposant finalement de servir de guide ou de pour présenter en fait le lieu où ils vivent, et donc en leur donnant aussi finalement la chance d'être au contact direct avec des gens qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, et inversement. Et je trouve que c'est un message intéressant aussi, que la culture peut être un facteur important de réinsertion. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je crois, et notamment pour le patrimoine.
Merci.